Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence.
Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette seconde séance de l'année. Alors, il y aura deux sujets totalement distincts aujourd'hui. Nous allons d'abord, après tant d'années, mettre fin à Nasser. Et ensuite, nous allons faire un bond dans le temps pour démarrer, reprendre la question de Palestine, là où nous l'avions arrêtée il y a au moins une bonne dizaine d'années, maintenant. Alors, cette fois-ci, je vous avais laissé en pleine tension, provoquée par l'attitude de Nasser, puisque il y avait une ambiguïté fondamentale qui était marquée dès novembre 67, voire même durant la conférence de Khartoum en septembre 67, qui était de donner comme projet la récupération des territoires occupés par Israël en 1967. La formule était mettre fin aux usurpations, quelque chose comme ça. Et non pas la libération de la Palestine. Et puis ensuite, c'était dès 68, ce qu'on a appelé la révolution palestinienne avait fait des Palestiniens un facteur essentiel. Et les Palestiniens, en pleine phase révolutionnaire à ce moment-là, évidemment, veulent la libération de la Palestine. Donc il y a une contradiction entre le discours des États qui veulent récupérer leur territoire perdu et la libération de la Palestine. Alors Nasser avait fait une formule en disant on peut faire les deux à la fois, c'est pas contradictoire, etc. Et tant qu'il n'y avait pas d'initiative diplomatique forte dans ce domaine, c'était le cas. Mais à partir du moment où Nasser accepte le plan Rogers en juin-juillet 1970, donc une formule diplomatique qui pouvait conduire à une paix avec le retour des territoires perdus, et la contradiction avec les Palestiniens se révèle. Et contradiction qui est liée aussi au fait que Nasser est dans totale ambiguïté, puisque en même temps, l'enjeu, nous l'avons déjà vu, et de faire passer les rampes des missiles SAM à proximité du canal pour préparer une traversée du canal de Suez. Mais ambiguïté supplémentaire, nous l'avons vu, Nasser sait très bien qu'à la rigueur, il peut se permettre de traverser le canal et d'avancer de quelques kilomètres, mais qu'au-delà, comme ce sera le cas en 73, la protection des fusées SAM ne fonctionnera plus. Et donc, de nouveau, ils seront exposés à l'aviation israélienne. Donc, il ne peut pas aller jusqu'à la frontière israélienne. Donc, c'est cette situation d'une extrême complexité qui va conduire aux événements que nous allons analyser aujourd'hui, qui sont entrés dans l'histoire sous une formule parfaite, c'est Septembre noir. Alors, avant tout, d'abord, son auteur derrière, Georges Habash, qui est particulièrement soucieux des relations internationales du Front populaire de libération de la Palestine, il n'a pas l'aura et le contrôle d'Arafat. Arafat contrôle le Fatah et contrôle l'ONP. Le FLP n'est qu'une branche, enfin un membre participant de l'ONP. Il n'a pas d'introduction. Je vous rappelle, c'est Nasser qui a introduit Arafat auprès des Soviétiques. Donc, alors que la tension est particulièrement forte, Habash a reçu une invitation de la Corée du Nord. Et s'il peut en Corée du Nord, ça pourrait lui donner une introduction auprès des autres démocraties socialistes, comme on disait à l'époque. Et comme d'habitude, c'est son chef de l'ombre, enfin, disons, son organisateur, plus qu'un bâche, c'est Wadi Haddad, qui organise le passage de Habash vers la Corée du Nord. Je rappelle, Wadi Haddad, ce sera le grand maître du terrorisme international, nous allons le voir, etc., avec des relations complexes aussi bien avec le KGB soviétique qu'avec l'armée rouge populaire, enfin, en Allemagne, et les brigades rouges en Italie. Ça a été le seul, peut-être, vrai organisateur du terrorisme à une échelle mondiale dans les années 1970. Donc, pour aller en Corée du Nord, il faut passer par Moscou. Et à Moscou, on lui dit, ben, on discutera avec vous à votre retour de Corée du Nord. Alors, à Pyongyang, Habash est bien reçu, mais le camarade Kim Il-sung n'a pas de temps à lui consacrer. On lui offre magnifiquement 500 kalachnikovs. Bon, ça fait plaisir. Et puis un cadeau personnel, et comme il l'écrit dans ses mémoires, on m'a également offert un cadeau personnel que je garde toujours dans notre maison, un tableau représentant une femme coréenne. Elle travaille dans les champs et tient en même temps un fusil Kalachnikov dans sa main. C'est une expression de leur intérêt à défendre la patrie et à construire en même temps leur société socialiste. La valeur de ce tableau est qu'il est fait à la main, c'est-à-dire qu'il est brodé à la main et qu'il s'agit d'un cadeau du dirigeant Kim Il-sung. Ma femme l'accroche toujours au mur de la chambre d'amis avec beaucoup de fierté. Ah, donc, on voit un peu le style Habash. Mais comme la tension monte en Jordanie, il est pressé de rentrer. Alors, il passe quand même par Pékin, où il est reçu par des diplomates des affaires étrangères qui annoncent le soutien de leur pays à la cause palestinienne, mais condamnent la stratégie du FPNP, c'est-à-dire les détournements d'avions. Je cite, « La question politique et militaire qui a fait l'objet de discussions entre une délégation et les frères chinois était la seule question des détournements d'avions. Je leur ai expliqué en détail notre position sur la ligne militaire et que cette approche nous est bénéfique en ce moment historique de l'histoire. Nous sommes conscients de la négligence de l'opinion publique mondiale à l'égard de la question palestinienne et de notre objectif dans le dossier des détournements d'avions, attirer l'attention du monde entier sur l'existence de notre cause, enfin, c'est d'un peuple opprimé, déraciné de sa terre et déplacé, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, c'est toute la définition, ce qu'on a appelé du terrorisme publicitaire. Alors, on fait un choc, non pas pour tuer des gens, etc., mais pour faire un retentissement international d'une cause. Du coup, au retour à Moscou, on refuse de rencontrer Habash. Et donc, il part pour l'Irak. Et là, on le fait passer clandestinement en Jordanie. Parce que le FPNP vient de commencer une crise majeure, qui sont les fameux détournements d'avions de septembre 1970. C'est une opération que Wadi Haddad a préparée depuis une bonne année. Il a repéré un ancien aéroport britannique, une piste dans le désert, qui s'appelait Dawson Field et qui a été rebaptisé l'aéroport de la Liberté. Il a fait étudier par des ingénieurs la possibilité d'y faire atterrir des avions de ligne. Il s'agit de faire une opération gigantesque qui doit ébranler le monde, selon les propos de Wadi Haddad. Le but est de libérer des centaines de prisonniers palestiniens et de faire connaître au monde la justice de la cause palestinienne. Un peu, mais dans un style totalement différent, heureusement, de ce qui était le 7 octobre 2023. Faire libérer des prisonniers et faire retentir une cause. Selon toute probabilité, Habash a donné la consigne d'activer l'opération afin de faire échouer le plan Rogers, et au passage de prendre le contrôle du mouvement national palestinien au détriment d'Arafat. Mais comme Habash est toujours en voyage sur le terrain, c'est Wadi Haddad qui gère. Alors, quatre avions doivent successivement être détournés dans l'ordre un TWE, un Swiss Air, un Panam et enfin un El Al. Un commando de quatre personnes, dont la fameuse Leila Khaled, a été prévu pour le détournement du dernier avion de El Al. Mais deux des membres des commandos provoquent la suspicion des services de sécurité et ne sont pas admis à bord. Ils sont transférés sur le vol suivant de la Panam à destination de New York. Et donc il n'y a plus que deux personnes dans l'avion et la tentative de détournement échoue. Le compagnon de Leila Khaled est tué et l'avion atterrit à Londres où Leila Khaled est donnée à la police britannique. Mais les deux autres membres du commando qui avaient pris l'avion suivant détournent le vol de la Panam sans avoir d'instruction et se dirigent sur Beyrouth. Les autorités libanaises, craignant pour le sort des passagers et l'équipage, acceptent de laisser monter à bord des renforts du FPNP. Après avoir été ravitaillés en carburant, l'avion repart pour se diriger sur le Caire. À l'atterrissage, le commando fait évacuer d'urgence les passagers et l'équipage, puis fait sauter l'avion. Le but était de compromettre l'Égypte dans l'affaire, mais les Égyptiens multiplient les attentions à l'égard des personnes détournées, marquant très bien leur désapprobation totale, et ils accusent l'Irak d'être responsable de cette affaire. Alors, les autres organisations condamnent les actions du FPLP, puisqu'il y a maintenant trois avions à atterrir à Dawsonfield. Alors, le 14 septembre, le roi Hussein donne à l'ambassadeur de France sa version des événements. J'étais en contact personnel par la tour de contrôle avec les équipages. J'ai refusé de les accueillir sur l'aéroport d'Amman. J'ai fait éteindre le balisage de celui d'H5. H5, c'est, comme vous trouvez sur les cartes, H4, H5, etc., c'est l'ancien trajet de l'oléoduc de l'IPC qui allait de l'Irak jusqu'à la Méditerranée, passant par Haïfa. Donc, c'est ces références en H. J'avais quelques troupes à Zarqa qui pouvaient prévenir un atterrissage à Dawson. Je voulais que les avions aillent au Caire où Nasser avait moyen de résister au chantage. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit avec le Jumbo. Mais les Irakiens sont intervenus, ils ont menacé d'abattre les appareils en plein ciel avec leurs chars si je n'autorisais pas l'atterrissage. J'ai cédé. Si en effet il y avait eu explosion au vol, le drame aurait été mis sur le dos des fédayines. Les Irakiens pouvaient faire leur coup en toute impunité et par conséquent, ils me tenaient. Bon, en tout cas, c'est la version du roi Hussein sur les événements. À l'aéroport de la Révolution, on dispose maintenant de suffisamment d'otages binationaux israéliens-américains pour pouvoir entamer une négociation par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont relâchées. Environ 500 Palestiniens, des parents du membre du FPNP, sont arrêtés en Israël par les autorités israéliennes qui menacent d'exercer des représailles physiques en cas de maltraitance des prisonniers. Les Palestiniens parlent d'otages. Et pour les Palestiniens en prison en Israël, les Israéliens disent non, ce sont des suspects. Alors que le FPLP utilise prisonniers, tandis que les autres les traitent d'otages. Vous voyez, on a encore le même discours qu'on a eu ces derniers temps sur les événements. Le grand écrivain palestinien Hassan Kanafani, qui est le porte-parole du FPLP, fait une conférence de presse à Amman, où se sont précipités une multitude de journalistes étrangers. Alors, il y a même un avion de la BOAC qui arrive à son tour à Dawsonfield sans avoir prévenu, parce qu'il y avait un Palestinien au passage qui avait détourné l'avion sans avoir d'instruction pour le faire. Donc, pendant ce temps, dans le reste de la Jordanie, les affrontements entre l'armée jordanienne et les Palestiniens s'intensifient. Donc là, sur la photo, c'est l'aéroport de la Révolution et des fédayines du FPNP en compagnie de Wadi Haddad qui doit être sur la photo, mais je suis incapable de le reconnaître. Alors, on en était, oui. les autres organisations sont débordées et sont obligées de suivre. Et l'aviation israélienne fait des murs du son au-dessus de la capitale jordanienne. Alors le risque de voir se produire une action militaire jordanienne ou américaine pour libérer les 70 derniers otages, d'où la décision de les transférer dans les camps palestiniens de Amman. Les avions sont ensuite détruits dans des explosions spectaculaires. C'est défini comme une atteinte aux intérêts impérialistes. L'Allemagne fédérale, la Suisse et la Grande-Bretagne libèrent les détenus palestiniens à leur pouvoir, dont Leila Khaled. Israël reste intransigeant en ce qui concerne ses propres prisonniers. Alors on essaye de faire passer le maximum de pression via la Croix-Rouge internationale. Et en même temps, Washington étudie la possibilité d'une intervention militaire. Elle se heurte à difficultés logistiques considérables et le risque est de provoquer ensuite une opération soviétique de même ampleur. En cas d'affrontement entre l'armée jordanienne et les contingents syriens et irakiens, il serait préférable d'avoir recours à Israël, dit-on, à Washington. Quant à Moscou, elle appelle au retrait, enfin à la fin des combats fratricides. Donc le sort des otages ayant été pour l'essentiel réglé, le roi Hussein est maintenant décidé d'en finir avec la résistance palestinienne et rétablir la loi et l'ordre. Il en a prévenu les Américains et même suggéré une éventuelle action israélienne. En fait, sa première préoccupation est de pouvoir dégarnir ses positions militaires face à Israël sans que l'État hébreu n'en profite pour pénétrer en Transjordanie. C'est en ce sens-là qu'il intervient auprès des Américains. En effet, du côté israélien, on pense que l'affaire pourrait conduire à la constitution d'un État palestinien en Transjordanie, ce qui réglerait la question du même nom. Mais on peut aussi penser qu'une Jordanie coupée du reste du monde arabe pourrait faire la paix avec Israël. Alors, l'avis des militaires est toujours le même. De très loin, l'armée jordanienne peut balayer en quelques jours les forces palestinienne. L'inconnu du dossier, c'est les contingents syriens et irakiens qui stationnent dans le territoire jordanien. À Washington, Kissinger s'est saisi de la question en présidant la cellule interdépartementale de crise, ce qu'on appelle le Washington Special Action Group, où il s'agit. C'est une variante du Conseil national de sécurité, mais on peut appeler ça en français une cellule de crise. Il s'est opposé à l'envoi de troupes américaines, parce qu'on n'en a pas, parce qu'une bonne partie de l'armée américaine est au Vietnam et en Asie, et le reste est en Europe, donc on n'en a pas les moyens de se découvrir. Mais Kissinger cherche à transformer la crise en opposition frontale avec l'Union soviétique et non pas en dossier moyen-oriental. Du coup, on mettrait fin au plan Rogers et ça permettrait à Israël d'apparaître comme un atout, asset en anglais, pour la politique américaine et non comme une charge. Et en même temps, on demande à l'Iran de faire des mouvements de troupes à la frontière irakienne pour paralyser l'armée irakienne. Mais Téhéran répond en disant qu'on nous livre d'abord des armes, comme d'habitude. Nixon, lui, est hostile à une intervention militaire américaine, qui provoquerait une délégitimation de la monarchie hachémite. Pour l'instant, on se contente de démonstrations de force avec le passage de la 6e flotte en Méditerranée orientale, ce qui donne la possibilité d'action aérienne. Alors, je rappelle, la 6e flotte, c'est en gros quand un navire de guerre américain passe Gibraltar, en fait c'est un peu plus compliqué, c'est le Cap Saint-Vincent, il bascule dans le champ de la 6e flotte. Et donc c'est la flotte de Méditerranée qui avait été créée au début des années 50 et dont le but est d'abord de couvrir le flanc sud de l'OTAN, le flanc méditerranéen de l'OTAN, tout en n'étant pas, la 6e flotte ne fait pas partie de l'OTAN, mais est en liaison avec l'OTAN. En fait, la 6e flotte, c'est un côté désert des Tartares, puisque pendant des décennies, elle fera des ronds dans l'eau, mais militairement, on n'y a que la petite intervention militaire en 1958 au Liban, et un peu plus tard sur Reagan, quelques bombardements de la Libye. C'est tout. C'est une flotte de démonstration avant tout. Et puis les Turcs qui sont hostiles à l'utilisation de la base de l'OTAN d'Incirlik qui se trouve en Anatolie. Donc chacun roule les mécaniques, si on peut dire, et pour faire d'exercer de la pression. Le 16 septembre, le roi Hussein forme un gouvernement militaire, ce qui est considéré comme une déclaration de guerre. La loi martiale est proclamée. Le 17 septembre, l'armée attaque les positions tenues par les fédayines. Les quartiers palestiniens montrent une résistance résolue en dépit de la puissance destructrice de l'artillerie jordanienne, puisque l'armée jordanienne bombarde les camps. Nasser est obligé de mettre fin à ses vacances alors que son état de santé n'est pas bon. Et il revient au Caire pour envoyer des émissaires partout pour plaider l'arrêt des combats, refusant de prendre parti entre la Jordanie et les Palestiniens. Moscou pousse Nasser à trouver une solution politique parce que Moscou ne veut pas d'une intervention militaire américaine en Jordanie. Alors, les troupes jordano-irakiennes ne bougent pas en Jordanie, ce qui rappelle pour les Palestiniens les souvenirs de 1948, où les troupes irakiennes en Cisjordanie ne bougeaient pas parce qu'il n'y avait pas d'ordre de bouger. C'était resté célèbre dans la mémoire arabe, et c'est le même cas en 1970. Alors après deux jours de combat, l'armée jordanienne l'emporte dans la capitale au prix de lourdes pertes civiles. Mais en revanche, les fédayines tiennent le nord du pays à proximité de la frontière syrienne avec le soutien de deux brigades blindées syriennes. Officiellement, ce sont des Palestiniens, mais il n'y a pas de Palestiniens avec des blindés en Syrie. Donc c'est un peu gros. Donc on a mis des drapeaux palestiniens sur les blindés syriens, et même que les pilotes soviétiques volent sur des avions à cocarde égyptienne. Alors comme à Karamé, Arafat est resté au milieu des siens, partageant avec eux les mêmes dangers, comportement qui contraste avec celui de Rabash, qui se trouve à l'extérieur du pays. Alors Kissinger harcèle Nixon pour obtenir l'autorisation d'une intervention militaire israélienne. Rabin fait passer le message, qui en rappelle l'ambassadeur à ce moment-là d'Israël à Washington, fait passer le message qu'une action aérienne serait insuffisante, donc il faudrait une intervention terrestre israélienne, mais ça il faut que les Américains en donnent la couverture politique et militaire. Complètement déconnectés de la situation, Nixon et Kissinger interprètent le mouvement syrien comme une manœuvre soviétique risquant de déboucher sur une confrontation directe entre les deux superpuissances, voire une guerre nucléaire. Ça, c'était le bon temps de la guerre froide, hein, pour ceux qui pensaient que les temps des baby-boomers étaient heureux. Il y avait toujours ces guerres nucléaire potentiel. En fait, il semble que le gouvernement syrien ait induit en erreur les soviétiques en affirmant qu'il n'y aurait pas d'intervention de sa part, d'autant plus que le ministre de la Défense syrien, Hafez al-Assad, est hostile à l'intervention syrienne. Donc on hésite toujours pour savoir si l'aviation israélienne doit ou non intervenir. Alors, les Israéliens veulent une demande claire et directe du roi Hussein d'intervention terrestre pour que ça n'apparaisse pas comme une invasion, mais c'est impensable pour le roi qui voudrait une intervention israélienne indépendante de sa volonté, si vous voulez, à l'insu de son plein gré, dirait-on, en bon français. Et de même pour une action américaine ou britannique. Alors, Kissinger pense que les Israéliens ont les moyens d'agir tout seuls. Nixon pense que les Syriens sont soutenus par les Soviétiques. Et on pense même proposer à Israël d'attaquer sur le Golan pour faire diversion. Mais le 22 septembre, les Jordaniens l'emportent sur les Syriens, ce qui est facilité par les divisions du pouvoir à Damas. Hafez al-Assad a refusé de donner une couverture aérienne aux forces engagées en Jordanie. Elles sont d'ailleurs classées comme étant proches de son rival Salah Jadid, qui se trouve ainsi affaibli. La petite aviation jordanienne peut ainsi frapper impunément les forces syriennes, tandis que l'aviation israélienne fait des murs du son. Le 23, le retrait syrien est terminé avec une perte de 120 blindés. Contre toute évidence, le gouvernement syrien déclare que l'accusation d'intervention en Jordanie fait partie d'un vaste plan dirigé contre la nation arabe. Et ces combats imaginaires ont été inventés pour justifier une action américaine. De même pour l'inaction irakienne, il semblerait que le pouvoir bassiste pourrait être suivi ensuite par une marche sur Bagdad. D'autres justifications sont données. Peur d'un affrontement international, dépendance envers l'Union soviétique pour les munitions, refus de s'associer aux Syriens et refus de se lancer dans une guerre contre la Jordanie. Donc c'est la victoire pour la Jordanie, enfin pour le roi Hussein, et Washington se donne le sentiment que c'est lui qui a gagné la guerre. Alors Nasser a convoqué pour calmer le jeu un sommet arabe restreint au Caire. Donc tout le monde, dès le 22 septembre, fait porter la responsabilité des événements sur l'FPLP et la nécessité d'arriver à un cessez-le-feu. 23 septembre, les nouvelles sont confuses, donc on n'arrive pas à prendre de décision. Le 24, on demande à Hussein de faire un cessez-le-feu immédiat. Et surtout, on décide d'envoyer une délégation arabe à Jordanie pour trouver une solution. En même temps, on invite Arafat et Hussein au Caire pour obtenir la fin des combats. Et Nasser est très monté aussi bien contre les Palestiniens que contre les Jordaniens. Il faut trouver une solution politique. Alors, on va envoyer à Amman le président soudanais Nimeiri et une délégation arabe avec le premier ministre tunisien Bahi Ladrame. Alors, les deux hommes vont montrer un grand courage physique, en particulier le soudanais qui va aller dans les camps rechercher Arafat malgré les bombardements jordaniens. Le 25 et le 26 septembre, Nasser continue de s'opposer à une condamnation de Hussein, mais ne veut pas être associé à son combat contre les Palestiniens. Le cessez-le-feu lui permet de transformer le dossier en question humanitaire et non politique. Kadhafi s'en prend au roi, ce qui vaut cette réplique de Nasser. Kadhafi, le roi Hussein est fou. Rappelez que son père a été interné, le père du roi Hussein. Pourquoi est-il fou? Allez-vous le guérir? Nasser, non. Il a d'abord besoin d'un comité de médecins pour nous examiner tous les rois et présidents du monde arabe, et dire qui est fou et qui ne l'est pas. Ça, c'est toujours le style nassérien quand on lit les entretiens de Nasser, qui, je dois dire, ont été mis en ligne par la Fondation Nasser. Il y a régulièrement des blagues de la part de Nasser, des docteurs, comment on dit, en Égypte, la sport nationale en Égypte, et ça détend un peu l'atmosphère. Alors ensuite, s'il y a égalité, nous pourrons exclure le roi Hussein seul, et après cela, si on le trouve. Alors Némeri réussit donc à obtenir l'arrivée d'Arafat, enfin de sortir Arafat et le cessez-le-feu. Et donc le 26 septembre, Arafat arrive au Caire. Il minimise les pertes palestiniennes pour marquer sa volonté de poursuivre le combat. Nasser lui dit qu'il n'est pas possible d'envoyer des troupes égyptiennes sur le terrain pour s'interposer. Et les Jordaniens disent qu'il faut mettre fin à la conspiration, au complot, parce qu'évidemment, il y a toujours complot. Il y en a toujours trop, d'ailleurs. Donc, le roi Hussein décide à son tour d'être au Caire, ce qui est courageux de sa part, parce que tout le monde lui fait porter les responsabilités de la crise. Et donc, il arrive à son tour, avec une engueulade entre lui et Arafat. Faisal propose un cessez-le-feu immédiat, le retrait des hommes armés des villes pour que la population puisse vivre normalement et rétablir l'unité nationale. Nasser approuve Faisal et finalement on impose un nouvel accord du Caire. Donc vous voyez ici le texte en arabe, si vous avez le courage de le lire à cette distance. C'est un indice que les troupes doivent se retirer du Caire, qu'il y aura des comités de coordination d'Amman, qu'il y aura des comités de coordination, qu'on va rétablir le ravitaillement des populations civiles, etc. Et après la décision du communiqué, Arafat et Hussein ne s'embrassent pas quand même, ils se serrent la main, ce qui provoque quand même une certaine indignation générale, dans la mesure où Septembre Noir aurait fait entre 3000 et 5000 morts, et plusieurs milliers de blessés, pour la plupart des civils et des dizaines de milliers de sans-abri. Alors, en apparence, l'accord du Caire semble rétablir la situation telle qu'elle avait été avant l'été. En réalité, le roi a gagné la partie en mettant fin à la situation de double pouvoir telle qu'elle avait existé ces deux dernières années. Le lendemain 28 septembre, Nasser, après avoir accompagné à l'aéroport ses derniers invités, meurt d'une crise cardiaque. Les événements lui ont interdit de prendre le repos qu'exigeaient depuis longtemps ses médecins. Donc c'est la fin d'une époque, c'est aussi pourquoi Septembre Noir est resté dans les mémoires, parce que c'est une clôture. C'était un événement de répercussion mondiale. Charles de Gaulle, qui allait disparaître quelques jours après, a envoyé ce message de condoléances que je vous cite. « C'est de tout cœur que je prends part au grand chagrin de l'Égypte. Par son intelligence, sa volonté, son courage exceptionnel, le président Gamal Abdel Nasser a rendu à son pays, au monde arabe tout entier, des services incomparables. Dans une période de l'histoire plus dure et dramatique que toute autre, il n'a cessé de lutter pour leur indépendance, leur honneur et leur grandeur. Aussi nous étions, nous, sans doute bien compris et profondément estimés. Aussi avions-nous pu rétablir entre la République arabe unie et la France les très bonnes relations que leur commandait leur grande amitié séculaire et leur volonté commune de justice, de dignité et de paix. » Un des derniers textes gaulliens. Alors Nasser a en effet incarné l'exigence de dignité nationale qui est le moteur de la période de décolonisation, faisant un peu d'années d'un pays dominé, un acteur écouté sur la scène internationale. Comme beaucoup de leaders du tiers-monde en voie d'émergence, il a adopté un mode de développement défini comme socialiste, allant dans le sens de l'affranchissement des dominations économiques externes et se voulant être l'ébauche d'un État-providence. Mais il n'a pas réussi à mettre fin à la dépendance envers l'extérieur. Il a relancé l'endettement de son pays à un moment où la guerre limite les ressources en devise, canal de Suez, tourisme s'en sont arrêtés. Pour être juste, son successeur direct aggravera considérablement la situation. Rappelez, pour l'Égypte, l'endettement, c'est un traumatisme historique, parce que c'était une cour que j'ai fait il y a quelques années, c'est par la question de la dette que l'Égypte a perdu son indépendance au XIXe siècle avec l'occupation britannique. Et donc, une fois la dette payée, grâce entre autres d'abord à la politique financière de la domination britannique, mais aussi par le fait qu'après 14, la dette a été divisée par 5, puisqu'elle était en francs. Et que le franc Poincaré de 1928 était le cinquième du franc de 1914. Donc toutes les dettes, la dette ottomane, la dette égyptienne, etc., ont été réduites 80% par cette opération. Je pense que c'est la même chose pour Haïti d'ailleurs, mais je n'ai pas étudié la question. Mais Nasser a aussi construit un système politique autoritaire, fondé sur un contrôle policier de la société et donnant à l'armée une place essentielle de son pays. Cela a pu être compensé par une réelle empathie entre lui et son peuple, comme le montreront l'ultime épisode de ses obsèques, où des millions d'Égyptiens balayeront les services d'ordre pour amener Nasser à sa dernière demeure, une mosquée. Mais son legs le plus durable a été un État sécuritaire et militaire qui n'a pas su retrouver cette relation fusionnelle en dépit des faux-semblants de la propagande officielle. Sa mort, et peu de temps après, la prise de pouvoir par Assad en Syrie, met fin à la période d'instabilité révolutionnaire du monde arabe. Mais cette stabilité qui s'impose sera incarnée par ce qu'on a appelé les républiques de la peur bassistes. L'énigme des dernières semaines de la vie de Nasser réside toujours dans la définition de ses intentions. Selon ses interlocuteurs, il semble bien opter soit pour une solution politique incluant la récupération totale des territoires arabes perdus, soit pour une traversée du canal à la fin du cessez-le-feu de 3 mois, c'est-à-dire début novembre 1970. Le plan Rogers lui aurait ainsi permis d'installer les rames de fusée à proximité du canal. Mais la question est, en dehors de son état de santé, aurait-il eu les moyens d'agir? Septembre noir, dû à les responsabilités totales du FPNP et aux contradictions internes des régimes bassistes, a conduit à l'effondrement total du front dit oriental, nécessaire pour diminuer la pression israélienne dans le Sinaï. L'armée égyptienne n'était absolument pas préparée matériellement à traverser le canal, contrairement à ce qui se passera 3 ans plus tard. Il faut bien comprendre, la préparation logistique de traversée du canal en 1973, c'est l'équivalent d'Overlord, le débarquement de Normandie. Donc ça ne s'improvise pas, ce genre de choses. Les turiféraires de Kissinger ont vanté son immense succès de septembre 1970 en contrant une offensive soviétique largement imaginaire, en faisant d'Israël un atout stratégique parce qu'il aurait sauvé la monarchie hachémite, et en enterrant le plan Rogers. Ce dernier, en dépit de tous ses défauts, comprenait néanmoins la seule possibilité de trouver une paix durable sur la base d'un retrait complet des territoires occupés, ce que Sadat obtiendra plus tard pour son propre pays seulement, donc dans une paix séparée. Plus d'un demi-siècle après, la violence continue d'être permanente, ce qui montre la limite de la victoire de Kissinger lors de cette crise et les conséquences de la seule gestion du conflit. Puisque, je rappelle, la position de Kissinger était qu'on ne pouvait pas résoudre le conflit, mais simplement le gérer. Septembre noir est aussi la première guerre civile arabe due à la contradiction entre les États arabes qui veulent récupérer les territoires perdus et qui ont conscience que derrière Israël, c'est toute la puissance américaine qui est en jeu, et une résistance palestinienne qui se veut révolutionnaire, tout en ayant un comportement milicien et qui s'en tient au projet de libération totale de la Palestine. Dès lors, il ne pourrait y avoir de processus de paix qu'en y intégrant une dimension palestinienne débouchant sur une solution politique. Il semble que Nasser y ait fait des allusions dans ce sens à Arafat. L'épuisement idéologique du nationalisme arabe va donner progressivement à l'islamisme renaissant le quasi-monopole de la contestation politique, comme le montrera la fin des années 70. L'islamisme saura reprendre le flambeau de l'anti-impérialisme, mais sans pouvoir lui donner la dimension d'un mouvement élargi à l'ensemble du monde dominé. Il n'y a pas de tricontinental islamiste. Asie, Afrique, Amérique. L'abrication du conflit dans la guerre froide s'inscrit dans la continuation de la logique de l'implication et de l'ingérence. Les acteurs locaux ont joué systématiquement dans ce jeu. Septembre noir est ainsi décrit à Washington comme une victoire sur les Soviétiques, alors que les Soviétiques n'ont pas bougé. Voilà donc la fin de ce cours, parce que je pensais qu'il fallait terminer sur la mort de Nasser. Quand même, c'est un moment. Et septembre noir est vraiment une date essentielle, puisque tous les événements successifs, pour être clair, sur un autre plan, entre 1970 et 2010, il n'y a plus de changement politique dans le monde arabe. Plus de révolution, plus de coup d'État. Enfin, il y a des tentatives, mais ça échoue. Donc on voit évidemment le choc que cela représente. Il y a des guerres civiles, hein, la guerre du Liban et des véritables guerres civiles en Irak et en Syrie en 79, 80, 81 entre les nationalistes arabes et les islamistes, mais il n'y a pas de renversement de régime. Alors nous allons basculer dans un autre cours. Nous refermons la parenthèse des crises d'Orient, si j'ose dire, et de ce que j'avais fait. Donc on revient à plus de 10 ans en arrière, où j'avais abordé la question de Palestine. Et donc nous allons aborder aujourd'hui ce qui est l'ébauche du tome 6 de la question de Palestine. Alors, je vous rappelle que le tome 5 se terminait avec comme intitulé « La paix impossible ». Alors vous allez prendre votre crise de désespoir puisque le tome 6 va s'appeler « La guerre sans fin ». Voilà, donc je vais d'abord commencer par faire un retour épistémologique sur le métier d'historien parce que sur ce sujet, plus que d'autres, il y a différentes accusations sur les méthodologies, les perspectives utilisées, etc. Donc, comme je l'ai fait il y a quelques années dans le passé imposé, on commence par un peu d'épistémologie avant d'aborder la question de Palestine. Alors, l'idéal de l'historien serait d'être impartial, tout en tenant une sorte de catalogue des bonnes et mauvaises actions prises. En témoigne la formule de Hegel, empruntée à Schiller, « L'histoire du monde est le tribunal du monde », correspondant au plus vulgaire « L'histoire jugera ». En quelque sorte, il s'agit d'une sécularisation de l'idée de jugement dernier, l'historien se substituant à Dieu, au moins temporairement. L'idéal de l'historien a toujours été en position de supériorité, puisque, sauf dans le cas de l'histoire immédiate, il ne connaît les résultats et donc peut émettre des jugements. C'est d'ailleurs là le plus grand danger pour lui, la téléologie, c'est-à-dire puisque cela s'est produit, cela devait se produire. Aujourd'hui, il cherche surtout à définir à chaque moment la pluralité des futurs possibles et les horizons d'attente des acteurs. Alors, on connaît le texte célèbre de Chateaubriand en 1807, ce qui lui a valu d'être exilé et de partir en Orient. Lorsque, dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il n'est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien apparaît, chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire, il croit inconnu auprès des cendres de Germanicus, et déjà l'intègre Providence a livré à un enfant obscur la gloire du maître du monde. Si le rôle de l'historien est beau, il est souvent dangereux, mais il est des autels comme celui de l'honneur qui, bien qu'abandonné, réclame encore des sacrifices. Le dieu n'est point anéanti parce que le temple est désert. Partout où il reste une chance à la fortune, il n'y a point d'héroïsme à la tenter. Les actions magnanimes sont celles dont le résultat prévu est le malheur et la mort. Après tout, qu'importent les revers si notre nom prononcé dans la postérité va faire battre un cœur généreux 2000 ans après notre vie. Oh, magnifique texte de Chateaubriand, qui évidemment évoquait la Révolution française en 1807. Et c'était interdit sous l'Empire de parler de la Révolution. Parce qu'on faisait la fusion entre l'ancien et le nouveau monde. Et donc, rappeler le passé, après les terribles violences des années 1790, c'était un crime pour Napoléon, d'où l'exil de Chateaubriand. Alors, bon, aujourd'hui, l'historien n'a plus l'ambition d'être porteur de la vengeance des peuples, celle en quelque sorte de graver dans le marbre les événements passés. J'avais jadis trouvé une lettre de Kléber à Bonaparte. Bonaparte avait fait une réprimande à Kléber. Kléber a répondu : « Général, n'oubliez pas que vous tenez le burin de l'histoire. » Et Bonaparte lui a répondu : « Mais je sais bien que j'ai le burin de l'histoire quand même. Mais je vous estime quand même. » Bon, vous voyez, mais c'est toute cette esthétique néoclassique de la fin de la période révolutionnaire et impériale. En fait, aujourd'hui, on sait que l'historien appartient à son propre temps et combien son savoir est précaire. Il sera bientôt déclassé par la disponibilité de nouvelles sources et l'émergence de nouveaux questionnements, les deux étant souvent liés. Il lui est reproché d'être partial et de tenir un récit, puisqu'il procède à un montage qui constitue une mise en intrigue, d'où la présence de biais divers. Il lui est opposé d'autres récits. Les historiens procéderaient ainsi à la constitution de récits antagonistes. C'est la seule fois que j'ai rencontré Edouard Saïd. Il développait la théorie du récit entre Israéliens et Palestiniens, tandis que moi je lui avais dit, en bon défenseur de l'outil de travail, que j'étais partisan de l'unité du savoir historique et non pas de la pluralité des récits. Ah, donc, il n'y a pas de récit, de constitution de récits antagonistes, parce qu'on néglige la recherche de la véridicité, c'est-à-dire un immense travail préalable de détermination des faits historiques. André Breton, dans le premier manifeste du surréalisme en 1924, condamnait ainsi le fait unique. Par besoin d'épuration, M. Paul Valéry proposait dernièrement de réunir en anthologie un aussi grand nombre que possible de débuts de romans, de la sanité desquels il attendait beaucoup. Les auteurs les plus famés seraient mis à contribution. Une telle idée fait encore honneur à Paul Valéry, qui naguère, à propos des romans, m'assurait qu'en ce qui le concerne, il se refuserait toujours à écrire. La marquise sortit à 5 heures. Mais a-t-il tenu parole ? Alors, pour un historien, il faut d'abord déterminer de savoir si vraiment la marquise est sortie à 5 heures. Et comment et pourquoi elle est sortie à 5 heures. Ensuite, il pose la question de savoir ce qu'est une marquise, quelle est la détermination du temps à l'époque. Il procède ainsi à l'enchaînement de faits préalables avec des faits postérieurs, c'est-à-dire un récit en tant que tel. puisqu'on intègre un fait dans un enchaînement causal. Et on est forcé de passer du fait brut, la marquise est sortie à 5 heures, si on a montré que c'est vrai, à l'idée pourquoi la marquise est sortie à 5 heures. C'est-à-dire qu'on doit passer de l'acte à l'intention. Et déterminer l'intention est toujours extrêmement difficile. On ne peut tirer l'intention qu'à partir d'un certain nombre de données. C'est exactement le problème que nous avons aujourd'hui avec la définition du génocide. Intention de détruire. Et c'est la question de l'intentionnalité qui n'est jamais donnée de façon brute. On a les massacres, oui, mais le fait brut de l'intention est plus difficile à tourner. Alors, dans notre époque contemporaine, les organes d'information donnent la première mise en sens de l'événement tout en procédant, dans le meilleur des cas, à une vérification complète. C'est d'autant plus indispensable que notre époque peut être définie par la prolifération des informations fausses et dans un grand nombre de pays par des vérités imposées. Le négationnisme est une maladie de notre temps. Il a sa place dans le déni de la destruction des Juifs d'Europe dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'un certain nombre d'événements qui peuvent être qualifiés aujourd'hui de crimes contre l'humanité et de génocide. La rhétorique utilisée évoque un rejet d'une histoire officielle et imposée. Le négationnisme se trouve ainsi à la conjonction d'une théorie de l'équivalence des récits opposés et du complotisme. Le complotisme étant lui-même une mise en sens, une mise en intrigue, une relation causale. Fausse, mais une relation causale quand même. Le complot est de toute époque et postule l'existence d'un groupe plus ou moins occulte manipulant les événements. Pendant très longtemps, il a été attribué aux jésuites et au XIXe siècle aux francs-maçons, pour ensuite devenir à la fin du XIXe siècle l'un des moteurs de l'antisémitisme. On trouve ainsi la description d'un projet de destruction des identités et des authenticités pour établir une mondialisation niveleuse. On l'a déjà pratiquement dans les protocoles de Sage de Sion, qui datent de maintenant de plus de 130 ans. On a ainsi une triomphe des gens de nulle part sur les gens d'ici au nom du cosmopolitisme. Ça, c'est un complot qu'on entend bien souvent. Mais de l'autre côté, on a aussi l'autre complot d'une mondialisation capitaliste, destructrice des humains comme de la nature. Dans les deux cas, la modernité est ressentie sur le mode du complot. Et c'est bien un des problèmes de notre société d'aujourd'hui. C'est que le moderne est confondu au complot. Et ce n'est pas spécialisé pour les musulmans, c'est mondial. Le récit historique est composé de faits vérifiés, reliés entre eux par des faisceaux d'interprétation causale, autrement dit des enchaînements ou des concaténations de causes. J'aime bien concaténation, j'ai pris à Paul Vein. La question est de savoir comment comprendre cette notion d'interprétation ? Elle est à la fois compréhension, élucidation, dégagement de sens. Le récit de l'historien peut ainsi se rapprocher de l'interprétation d'une partition par un musicien. Sur un même réseau de sources, qui constituerait la partition, l'interprète historien a des variations entre lui et d'autres interprètes historiens, comme on interprète de façon différente une partition. Il existe donc de multiples interprétations d'une partition unique, d'où à la fois la similarité et les différences des récits d'historiens, s'ils sont bien faits. Bon, comme l'historien n'est pas Dieu, pour l'instant en tout cas, même s'il tente parfois d'en prendre la place, il peut toujours être accusé de la partialité. C'est-à-dire qu'on peut aussi accuser Dieu de partialité si on lit la Bible, mais ça, c'est un autre sujet. Son exigence essentielle est d'être honnête, c'est-à-dire de ne pas rejeter sciemment des faits vérifiés contraire à ces interprétations. Mais l'histoire n'est que le segment scientifique de la mémoire. Elle se heurte aujourd'hui à des faits historiques, plus ou moins anciens, mais vécus au présent, dans lesquels s'emmagasinent des douleurs qui ne sont plus vécues, mais transmises. Ce passé ressenti, comme un présent, peut être accompagné de demandes de repentance, voire de réparation. Cette tendance qui pousse à des épurations des lieux de mémoire conduit à une interprétation du type juridique de l'histoire, c'est-à-dire en termes de responsabilité, puisqu'en droit ne sont jugées que des personnes distinctes ou à la rigueur une organisation définie comme criminelle. Par exemple, les SS du nazisme ont été définis comme organisation criminelle, mais ce qu'on a jugé dans ce cas-là, c'est l'appartenance à une organisation criminelle. Donc on revient à la personne. Et cela pose aujourd'hui la question de l'appartenance à un mouvement défini comme terroriste et au-delà, la question impossible à résoudre dans notre société des modalités de la résistance à l'oppression. Si vous regardez les déclarations des droits de l'homme de la Révolution américaine et de la Révolution française, la résistance à l'oppression est parmi les premiers éléments des déclarations, ce qui était tout à fait normal, puisque les deux déclarations sont issues d'une révolution. Donc il fallait donner une justification, une légitimation. Par contre, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne pose la résistance à l'oppression que dans le préambule et dans la capacité, la signale comme dernier recours, mais sans définir quelle forme ce dernier recours peut avoir. Si la causalité en termes de responsabilité a été longtemps au fondement de la narration historique, elle a été largement complétée par une causalité en termes de processus. La formule de Marx, bien connue dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, est la suivante. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Alors Raymond Aron, ici, dans ses cours au Collège de France, a résumé la formule de Marx sous la forme « Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. » Autrement dit, l'homme est déterminé, son action l'est aussi, mais à chaque moment, tout est possible. C'est ça le paradoxe de l'histoire. Les processus constituent tous les contextes dans lesquels les hommes agissent. Ils s'inscrivent dans des temporalités en général plus longues que celles d'une vie humaine. La révolution industrielle, l'impérialisme, etc. S'il existe un temps court, celui dans lequel vivent les acteurs, un présent en perpétuel déplacement, ces moments vécus s'inscrivent dans des processus de bien plus longue durée. Et il n'est pas possible de traiter en justice un processus, sauf en termes d'explications contextuelles, dans une problématique de circonstances atténuantes ou aggravantes. C'est tout le problème du rôle des historiens dans les procès dits historiques, comme ceux qu'il y a eu pour Sétouvier, pour Papon, etc. On les a fait venir comme témoins, mais est-ce qu'ils étaient témoins, est-ce qu'ils étaient experts, c'était quelque chose qui était mal déterminé en justice. La question juive est un processus historique qui s'est constitué à partir de l'émancipation des non-chrétiens dans la société occidentale, même si par la force des choses, elle a repris des éléments antérieurs comme l'anti-judaïsme théologique, la question de la manipulation de l'argent et les accusations de crimes rituels. Elle a engendré, entre autres, un mouvement sioniste dans le cadre des mouvements nationaux en Europe centrale et orientale, qui peut être considéré comme une politisation du judaïsme. Son but même est d'en faire un acteur politique sous le nom de peuple juif. Pierre Vidal-Naquet disait que le but du sionisme était de faire le judaïsme dans un seul pays. Je vous donne la citation complète de Lionel Daquet parce qu'elle est formidable. C'est dans le journal Le Monde, 30 juillet 1969. Le sionisme, c'est en somme le judaïsme dans un seul pays, de même que le stalinisme était le socialisme dans un seul pays. Le stalinisme avait réussi ou presque à anéantir le marxisme en tant que pensée critique de la société. Il est à craindre que le sionisme n'anéantisse ce ferment critique assez étonnant dont l'histoire avait investi depuis le XIXe siècle le judaïsme européen. Et j'ai une pensée pour Pierre Bédel-Naquet que j'ai bien connu en son temps. On avait des intérêts communs, en particulier l'histoire de l'Atlantide. Mais ça, c'est un autre sujet. J'avais écrit un article sur l'Atlantide, j'en avais écrit un. Moi, j'étais tout jeune chercheur, lui, il était bien plus âgé que moi. Et nous avons échangé nos textes, puisqu'on disait à peu près la même conclusion en faisant un raisonnement sur d'autres sources. Mais ça, c'est un point d'histoire personnelle. D'où le fait que si on fait un judaïsme dans un seul pays, on rejette l'histoire de la diaspora comme une martyrologie permanente, ou presque. C'est ce qu'on a appelé l'histoire lacrymale. Dès le début de sa concrétisation, le sionisme s'est heurté au problème dit arabe, c'est-à-dire l'existence d'une population elle-même en train de se définir comme peuple palestinien, comme le faisaient les autres composantes des populations du Moyen-Orient, qui chacune prenait, se définissait comme peuple, dans le cadre géographique propre. Dès lors, le conflit était inévitable, puisque la création d'un État juif impliquait l'expulsion, en termes polis, transfert, d'une partie conséquente de cette population et la confiscation, en termes toujours polis, expropriation, de ses biens. Et évidemment, le contexte de deux guerres mondiales a beaucoup joué, ainsi que celui de la colonisation et de la décolonisation. Tout montre que la violence était inévitable dans la confrontation de ces deux processus. Mais, à chaque moment, les acteurs ont eu la liberté de choisir entre ce qu'ils pouvaient considérer comme les moins mauvaises des solutions. Malheureusement, dans ce corps à corps, où chacun voudrait que l'autre disparaisse, on est allé dans le sens d'une violence croissante qui n'était tempérée que par la nécessité de tenir compte des réactions du reste du monde, définie comme étant la communauté internationale. En tout cas, il est clair que depuis le début du XXIe siècle, le conflit est entré dans un processus de guerre sans fin avec des atrocités croissantes. Donc voilà le préambule de la guerre sans fin. Et avant d'aborder les événements, il faut placer des termes de la discussion. Et on va d'abord définir un terme qui revient de façon nauséabonde dans tous les discours, y compris en France, et en particulier en France, celui d'islamisme. Alors, il faut revenir aux usages du vocabulaire. En arabe, pour des raisons grammaticales, de façon générale, le terme islamique renvoie à des institutions et celui de musulman à des personnes. Dans les langues européennes, le terme mahométisme a été supplanté au XVIIIe siècle par celui d'islamisme et a été largement utilisé. J'ai une correction à faire là. Au XIXe siècle, comme équivalent du christianisme et du judaïsme. L'islamisme et la science, Renan, par exemple. Mais tout le XIXe siècle, on dit islamisme comme on dit christianisme ou judaïsme. Dans ce cadre-là, le mot « islamiste » définit un spécialiste de l'islam comme on a des latinistes ou des hellénistes. Mais ensuite, le français a choisi les termes « arabisant » et « islamologue », tandis que l'anglais a choisi « arabiste ». Islam a pris succession d'islamisme au XXe siècle, en français en tout cas, avec la distinction scientifique du terme avec majuscule, islam I majuscule pour désigner la civilisation, où les musulmans sont dominants, mais où il existe des non-musulmans, et islam avec I minuscule, pour désigner la religion proprement dite. L'anglais, qui abuse beaucoup plus que le français de la majuscule, ne peut se permettre cette distinction, d'où le fait que parfois on utilise islam d'homme pour islam avec I majuscule en français. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans le cadre de la première mondialisation, avec ses progrès fantastiques dans les communications, l'habitude a été prise de parler de monde musulman comme un espace de communication allant de l'Atlantique à la Chine. Pour simplifier les choses, le monde musulman apparaît avec l'ouverture du canal de Suez. Et ça renvoie à cette réalité matérielle qui sont les nouvelles possibilités de communication dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est à partir de ce moment-là qu'on a des nouvelles directes des musulmans chinois au Maroc. Au milieu des années 1930, va apparaître le doublet de monde musulman, c'est-à-dire monde arabe, qui est plus restreint géographiquement, mais qui ne date que de 1935-1936. Dans l'usage plus ou moins courant, s'établit en français une sorte de gradation musulman renvoyant à l'adepte de la religion et islamique exprimant une intensité plus forte de la religion. Mais par le biais des traductions, on a eu une confusion croissante des usages. Ainsi, la Ligue islamique mondiale fondée en 1962, Rabita al-Alam al-Islami, Al-Rabita en arabe standard, est appelé en anglais Muslim World League. Donc là, nous mettons en français islamique, les Anglais mettent musulman. En arabe, le terme islami signifie à proprement parler islamique, donc renvoyant à une institution. Mais déjà dans l'islam dit classique, il a pu être utilisé pour désigner une personne se rattachant à l'islam. On le trouve ainsi dans le titre du livre « Makalat al-Islamiyyin » d'Abu Hassan al-Ash'ari, 874-935, qui fait un recueil des opinions des différents mouvements de l'islam. Clairement, dans ce titre-là, « Islamiyyin » renvoie aux personnes et non aux institutions. Il est difficile de mettre sur une seule étiquette une grande variété de mouvements, souvent en concurrence. La politisation de l'islam sunnite a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle face au double choc représenté par l'extension de la modernité occidentale au reste du monde et à l'établissement d'une domination impériale européenne. Il a fallu d'abord intégrer la nouvelle grille temporelle qui a fait des pays musulmans un monde en retard. C'est dans les années 1860 qu'on commence à voir dans les textes ottomans pourquoi nous sommes en retard et comment pouvons-nous rattraper. La réaction des appareils d'État a été un modernisme autoritaire afin d'imposer un État de type européen, ce qu'on appelait l'État moderne. Cela a provoqué bien des résistances qui ont conduit à la fois à islamiser les réformes en donnant aux nouvelles institutions un vocabulaire islamique et à réformer l'islam à l'instar du modèle protestant européen. Jamais Lénine et Lafranie se revendiquaient de Luther et de Calvin. Mais pour se référencer à Luther et à Calvin, il fallait connaître la culture européenne. C'est ça le grand changement de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s'en est suivi ensuite, au début du XXe siècle, une bifurcation entre un courant moderniste cherchant à accommoder le libéralisme et l'héritage islamique et un courant prônant ce qui tend à devenir une utopie politique islamique s'affirmant contre un contre-Occident. Le problème est qu'en croyant se définir indépendamment de l'Occident, en fait, on fait constamment référence à lui. Ces développements se sont faits pour l'essentiel en dehors des institutions islamiques traditionnelles, qui exercent une sorte de service public de la religion, et qui, dans la continuité de l'époque ottomane, se trouve plus ou moins intégrée à l'appareil d'État, et certainement encore plus intégrée aujourd'hui à l'appareil d'État qu'elle ne l'était à l'époque ottomane, puisqu'on a pu, par exemple, parler sur le 19e, 20e siècle d'une nationalisation des waqf, alors qu'à l'époque classique, ils étaient indépendants. Les waqf, ce sont les fondations pieuses. Autrement dit, les savants en religion, ayant tous les titres requis, se sont trouvés plus ou moins en dehors des formulations nouvelles, même s'il y a bien sûr une large récupération de ces idées. Alors, il faut tout de suite, pour compliquer les choses, mettre de côté le Coran salafiste, qui rejette comme innovation blâmable tout ce qui s'est fait au-delà des trois premières générations de l'islam. Autrement dit, les salafistes rejettent l'essentiel de la culture islamique, à quelques exceptions près. Il est en soi antérieur à l'arrivée des idées occidentales, puisqu'il dispose de références médiévales. Alors, c'est ce que j'avais appelé dans un papier la ligne de métro. Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Hamdan al-Wahhab, Rachid Rida, etc. Oui, c'est ce que c'est, la ligne de métro. Donc, dans ce cadre, il faut placer le wahhabisme saoudien ayant pour centre l'insistance sur l'unicité divine et l'interdiction de toute association à Dieu, d'où la prohibition du culte des saints. Dans le discours commun de l'époque coloniale, le terme de wahhabite a été très largement utilisé pour désigner les courants salafistes qui n'avaient aucun rapport direct avec la péninsule arabique. Donc on trouve par exemple des wahhabites au Maroc dans les textes coloniaux. En fait, le wahhabisme peut être défini comme l'un des courants ou l'une des composantes du salafisme, mais que le salafisme est beaucoup plus large que le wahhabisme. Ça a ajouté l'influence catastrophique d'un de mes grands prédécesseurs, Louis Massignon, qui a confondu sous le même terme le réformisme musulman du dernier tiers du XIXe siècle et le salafisme proprement dit, du fait de la référence des deux courants au temps originel de l'islam. Et ça, c'était une catastrophe. Si vous prenez le grand classique d'Albert Aurani sur la pensée arabe à l'époque libérale, qui a été traduit en français, je n'ai plus le titre en français exact, Aurani n'utilise jamais le terme salafiste. Alors qu'il parle d'Arabdou, qu'il parle de Rachid Rida, qu'il parle de ça. Tandis que Massignon, il dit « je parle en langage salafiste avec Rachid Rida ». Ah, donc, c'est confusion qui fait qu'on a traité les réformistes musulmans de salafistes est très largement due à Louis Massignon. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à éliminer la référence salafiste pour les réformistes musulmans. Après la disparition du califat ottoman en 1924, la question du rapport entre l'islam sunnite et l'État doit être formulée à chaque fois dans l'espace d'un seul pays, puisque avant, des institutions islamiques étaient supra-étatiques, puisqu'il y avait un califat à Constantinople et un ministre du culte qui était le cheikh al-Islam. Maintenant, dans chaque État nouveau, l'islam doit se recadrer. D'où la création, dans le domaine colonial britannique, de titres de grand mufti pour chef de la religion islamique. Et quand les Français sont là, bah, on fait des muftis de la République. Hein. On est incorrigible. Donc, ce qu'on n'a pas bien compris en tête, c'est que dans les années 20 et 30, l'islam doit se réintégrer dans un cadre étatique qui est lui-même un cadre étatique nouveau. D'où un malaise qui va conduire un certain nombre d'intellectuels à se dire « mais cet État, qu'est-ce que c'est ?» Et dans la mesure même où le vocabulaire politique de l'islam était un vocabulaire simple, califat, bon, c'est ce qui suit. Sultanat, c'est l'autorité. L'émirat, c'est celui qui donne des ordres. C'est vraiment des définitions totalement basiques. Alors que nous allons le voir, Mamlaka est donc royaume, et Malik, roi, est une création du XXe siècle. Le premier roi, c'est le shérif Hussein de la Mecque, qui est proclamé roi du Hedjaz en 1916. Le second, c'est Faisal, roi de Syrie, en 1920. Ensuite, c'est Faisal, 1921, roi d'Irak. Ensuite, c'est Fouad Ier, roi d'Égypte, et ainsi de suite. Quand le Maroc devient indépendant, on passe du sultanat à la monarchie. Et quand le dernier, c'est le roi du Bahreïn depuis quelques années. Donc, la notion de royauté est une notion nouvelle, largement empruntée aux royautés européennes de l'époque. C'est fait penser à l'anecdote de T.E. Lawrence, Lawrence d'Arabie, rencontrant le roi d'Angleterre, George V, et George V dit « Ah, ça a le temps pour les monarchies, puisque bah, les Hohenzollern, les Habsbourg venaient de chuter. Et sire, je viens d'en créer quelques-unes. » Je ne sais pas si c'est apocryphe, mais ça correspond à l'humour du personnage. Donc, on a la nécessité pour ces gens de se recadrer dans le cadre étatique. Alors, en même temps, dans les années 20 et 30, apparaît un nouvel groupe social qu'on appelait les musulmans éduqués. C'était le terme qu'ils utilisaient eux-mêmes pour se définir. Ces musulmans éduqués se trouvaient en compétition avec une bourgeoisie chrétienne qui disposait d'une forte avancée éducative grâce à l'action des écoles missionnaires. Donc la jeunesse éduquée a leur tendance à revendiquer une part dans la société équivalente à l'importance numérique de la population musulmane, d'où aussi la nécessité d'insister sur l'identité islamique de la société et de l'État. Alors, c'est dans ce contexte qu'on trouve chez certains termes dès 1928-29 le terme d'État islamique, Dawla Islamia, qui justement exprime ce malaise par rapport à l'État. Et même à la Mamlaka ou à la Jumhuriya. Donc, Jumhuriya, c'est la République. L'Égypte, depuis le début du XIXe siècle, connaît à la fois un discours de civilisation-modernisation. La famille, la dynastie de Mohammed Ali a pour mot d'ordre la civilisation de l'Égypte, à partir des années 1820-1830. J'ai fait un de mes premiers articles là-dessus. Le mouvement des frères musulmans, à partir de la fin des années 1920, mène une guerre culturelle contre les défaillances morales de l'occidentalisation, alcool, jeux, tenue des femmes, et une affirmation des restaurations des normes et des valeurs islamiques. Ce mouvement a toutes les caractéristiques d'un antimodernisme qui, comme tous les autres, utilise largement les instruments de la modernité quand ils sont vus de la pire technique. Si vous prenez le cas du catholicisme français, il n'y a rien de plus antimoderne que l'ordre des assomptionnistes à la fin du XIXe siècle, avec leur journal La Croix, etc. Ceux qui créent la première centrale électrique à Jérusalem, par exemple, les assomptionnistes, donc ils sont ultra modernes, mais ils rejettent totalement la société moderne. Donc, la technique est censée dégager l'empreinte morale ou la valeur qui est là. Alors, ce mouvement, comme les frères musulmans, les jeunesses éduquées, s'en prennent aussi à un islam populaire rempli de superstitions et, dans une certaine mesure, ils s'en prennent aussi au mysticisme des confréries soufis. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des confréries soufis qui peuvent être considérées comme modernistes, enfin, comme très proches des frères musulmans, en réalité. Donc, et même dans certains points de vue, les frères musulmans sont aussi une confrérie soufie, sur certains points. En tout cas, c'est pour ça que la chose est compliquée. D'où le fait qu'en fait, on se bat sur deux fronts. On se bat contre l'occidentalisation des mœurs, mais on se bat aussi contre la culture traditionnelle populaire des musulmans. Cette évolution suit d'ailleurs le mouvement d'alphabétisation qui sépare les générations nouvelles de la culture de leurs parents, analphabètes, et qui pousse donc à des lectures littérales des textes religieux. Je crois que la pire catastrophe qui puisse arriver à l'islam, c'est le fait que les Arabes croient comprendre le Coran. Ce que les historiens, eux, ont beaucoup de difficultés à faire. Alors, pour les non-arabes, le problème, c'est parce qu'ils l'apprennent par cœur sans comprendre de quoi il s'agit, donc le problème est réglé. Mais il y a une approche spontanée du Coran qui n'est pas historiquement fondée du point de vue linguistique. Ce Coran interprète l'histoire contemporaine sur le mode du complot, avec évidemment des emprunts à l'antisémitisme européen. Donc le récit, qui par exemple qu'on trouve dans la charte de Hamas, marque qu'après l'échec des croisades, les Occidentaux ont eu recours à l'arme des idées, en particulier à partir de l'expédition d'Égypte. J'ai bien connu ça, puisque quand je suis arrivé faire ma thèse sur l'expédition d'Égypte, il y a un paquet de décennies, en Égypte, on commençait à dire que l'expulsion d'Égypte, c'était l'agression culturelle. Al-Razo al-Fakathi. Alors qu'avant, bon, ça avait provoqué la naissance de la nation égyptienne, donc c'était pas si mauvais que ça. Et puis on était quand même flattés d'avoir été conquis par Napoléon, hein. On n'est pas n'importe qui. Mais là, donc c'était devenu Al-Razo al-Fakathi, l'agression culturelle. Le complot passe par le véhicule de l'occidentalisation-modernisation. À l'impérialisme chrétien s'ajoute le complot révolutionnaire juif, sorte de partenaire diabolique de l'impérialisme. Ce dernier suscite un mouvement de résistance en opprimant les musulmans qui, pour leur malheur, ont recours au communisme qui est évidemment d'origine juive. Ainsi est repris l'un des grands thèmes de l'antisémitisme occidental, les juifs promoteurs d'une modernité destructrice des identités et des authenticités. Par les jeux des effets de miroir est adoptée à la lettre l'affirmation des plus douteuses de l'existence d'une civilisation judéo-chrétienne. Alors, pour une fois pour toutes, judéo-chrétien renvoie, en sens premier du terme, à un certain nombre de groupes chrétiens qui pratiquent en même temps la religion juive. Alors, ça concerne d'abord une partie des premiers chrétiens dans l'Antiquité, avant d'être progressivement éliminés par le courant dominant de l'Église, qui a fait de l'islamo-chrétien, pas du judéo-chrétien, une hérésie judaïsante. Mais les termes les groupes judéo-chrétiens se reproduisent régulièrement dans l'histoire depuis deux millénaires pratiquement, c'est-à-dire que des groupes partout dans le monde, en Amérique, en Asie, etc., peuvent en Afrique récemment aussi, à la lecture de la Bible, peuvent adopter une adoption d'un judaïsme qui reconnaît Jésus comme Messie, mais qui pratique le judaïsme sans aucun rapport avec les juifs officiels, si je veux dire. Alors ensuite, il y a des problèmes de savoir si on arrive à les réintégrer dans le judaïsme, ou à les intégrer dans le judaïsme ou non. Mais ça, c'est quoi, les Black Hebrew en Amérique du Nord, etc. Bon, ces groupes judéo-chrétiens, donc c'est une permanence dans l'histoire, mais c'est très spécifique, c'est des gens pratiquant la religion juive tout en reconnaissant Jésus comme Messie. Voilà ce qui peut être, techniquement parlant, judéo-chrétien. La seconde chose qui est judéo-chrétienne, une fois pour toutes, c'est une religion qui est à la rencontre du judaïsme et du christianisme et qui honore aussi bien les prophètes du judaïsme que les personnalités du christianisme, c'est-à-dire l'islam. La seule réalité judéo-chrétienne dans l'histoire, c'est l'islam. Il suffit d'ouvrir le Coran pour s'en rendre compte. Ah, alors, par contre, la civilisation judéo-chrétienne, c'est de la foutaise, qui est une invention récente. Alors, au XIXe siècle, ça se passait comme ça, puisque la modernité était définie dans un rapport au XIXe siècle à Athènes. La Troisième République française était l'héritière d'Athènes, de Platon, d'Aristote, de Démosthène, etc. Et donc, les juifs libéraux se revendiquaient aussi de ça, mais ils disaient le libéralisme, ce n'est pas le produit seulement d'Athènes, c'est le produit des prophètes. Et donc, il y a eu tout un discours en disant le libéralisme vient des prophètes de la Bible. Ce qu'on peut être douteux quand on lit les prophètes en question, mais ça, c'est un autre point. Il y a une belle page de Renan sur ce sujet, en disant qu'il n'y a rien de plus intolérant qu'un prophète du judaïsme. Mais que bah, c'est eux qui portaient le sens de l'histoire et pas les rois demi-païens d'Israël. Il écrit des choses intéressantes, Renan, quand même. Et donc, ensuite, bon, judéo-chrétien, ça a été la condamnation de la société chrétienne par la philosophie allemande de droite à la fin du XIXe siècle, représentée entre autres par Nietzsche, qui confond le judaïsme et le christianisme et qui va conduire à un néopaganisme qui serait qu'on retrouve dans le nazisme, qui est le rejet de la dimension juive du christianisme, voire du christianisme lui-même. Et ensuite, l'argument s'est inversé, puisque pour combattre contre l'antisémitisme, on a insisté sur l'unicité du judaïsme, enfin la solidarité entre le judaïsme et le christianisme. Alors, ça part de Pie XI, qui rappelle que Jésus est juif en 1938, et ensuite Nostra Aetate à Vatican II, etc. Donc on vient de célébrer le 60e anniversaire, me semble-t-il. Donc l'encyclique Nostra Aetate. Alors, quand les nous affirme, enfin, quand des Occidentaux affirment, disent nous sommes des judéo-chrétiens, les autres répondent vous êtes des juifs et des croisés. C'est les jeux de ping-pong entre les mondes. Alors, cette guerre culturelle est réactive et réactionnaire, mélangeant toutes sortes de composantes de la culture occidentale, intellectuelle, économique, politique, religieuse, tout aussi bien que les mœurs. Ça, évidemment, on est dans le sunnisme. Il n'y a rien à voir à ce qui se passe dans le chiisme à côté, parce qu'en gros, ces frères musulmans, etc., leur connaissance de la pensée occidentale, ça se résume à quelques manuels de lycée, tandis que à Téhéran, à Qom, à Najaf, on traduit toute la philosophie occidentale contemporaine. Tous les copains qui sont allés dans les villes saintes, on dit, on a Nietzsche, Bergson, Sartre, Marx, en traduction persane ou arabe, et les Iraniens, enfin les chiites, en général les Iraniens en particulier, ont une vraie solide connaissance de la culture philosophique occidentale. Mais c'est lié aussi au fait que la tradition philosophique n'est jamais morte en Iran, quant à dire qu'elle était morte dans l'islam sunnite arabe. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, donc, on est très loin. Donc, l'affirmation de l'islam comme solution est une pétition de principe et toutes les déviations sont de l'ordre du complot. Se pose ainsi la question de l'action. Alors, deux actions sont possibles. L'action par le bas, par le biais des œuvres caritatives et l'imposition du respect des bonnes mœurs, et l'action par le haut, où les bonnes normes seront imposées suite à une prise de pouvoir. C'est la problématique essentielle des frères musulmans depuis leur création, savoir si on agit par le bas ou par le haut. Et du coup, ça va permettre de comprendre les phases de quiétisme de ces mouvements et au contraire les phases d'action politique de ces mouvements quand je passe du haut en bas ou du bas en haut. Alors, l'après-guerre, la seconde après-guerre, a vu la montée en puissance du nationalisme arabe qui, tout en n'étant pas à proprement parler laïque, se veut avant tout modernisateur. Même les alliés de l'Union soviétique refusent toute propagande de type athéiste. C'est pour ça que les films soviétiques étaient interdits pratiquement dans l'Égypte nassérienne. Néanmoins, alors que les films d'Hollywood étaient autorisés, évidemment. Néanmoins, le nationalisme arabe s'est posé comme part d'un grand mouvement d'émancipation des peuples dominés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Les symboles pouvaient être ainsi Che Guevara, voire des idoles de la pop musique. L'anti-occidentalisme était en fait qu'un anti-impérialisme purement politique, alors que les régimes en place étaient ouverts complètement à la culture occidentale. Quand vous regardez la politique culturelle de l'Égypte nassérienne, il y a une politique de traduction systématique en arabe des grands classiques de la littérature européenne et vendue à prix bas. J'avais trouvé ça dans les librairies égyptiennes dans les années 80. Maintenant, ils ont disparu, ces livres. Ils n'ont plus que d'occasion. Mais il y avait une vraie politique. On traduisait Victor Hugo, Alexandre Dumas. Enfin, tous les grands écrivains européens étaient traduits en arabe par le régime nassérien. Donc, certains frères musulmans, ayant fréquenté les communistes dans les prisons, puisqu'ils étaient envoyés en prison en même temps que les frères musulmans et dans les mêmes lieux, vont jusqu'à dire que l'indépendance est le stade suprême de l'impérialisme, marquant pour eux la primauté de la culture religieuse sur celle de la politique. L'arme de l'islam politique a été utilisée par les milieux conservateurs qui ont dénoncé des mesures socialistes comme contraires à l'islam. Les progressistes ont répliqué en accusant cet islam conservateur d'allié de la réaction et de l'impérialisme. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite a été particulièrement visé avant la réconciliation du sommet arabe de Khartoum de 67. Le royaume a fait de l'islam son instrument d'influence majeur, d'abord sur la scène arabe et ensuite sur la scène internationale. Manquant de cadres formés, il a eu recours aux réfugiés frères musulmans qui ont peuplé les nouvelles institutions islamiques du royaume, comme les universités islamiques de la Mecque, de Médine, etc. Et les instruments de propagande religieuse comme la Rabita, donc la Ligue islamique. Cela a eu une double conséquence. La première a été un rapprochement entre le frérisme et le wahhabisme, allant vers une synthèse entre le salafisme et le réformisme musulman. Dans les années 1990, le pouvoir saoudien a découvert que les frères musulmans avaient en quelque sorte inculqué à certains wahhabites la nécessité d'une action politique, alors que la doctrine traditionnelle était fondée sur le respect absolu du pouvoir en place. Il s'en était suivi une très dure crise politique que la monarchie avait remportée en utilisant tous les instruments de la répression. L'autre conséquence de la politique saoudienne a été l'élargissement des perspectives, créant une sorte de mondialisation islamique à partir des années 1960. La prédication, la darwa, a ainsi financé la diffusion de Corans et la construction de mosquées un peu partout dans le monde. C'était une politique qu'on appellerait aujourd'hui de soft power. Les perspectives se sont ainsi élargies avec à la fois le sentiment d'une progression géographique de l'islam et une appréhension victimaire de persécutions dans différents pays. Alors, on va avoir naissance d'un concept et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors ainsi, l'enrichissement des pays du Golfe dans les années 70 multiplie les références islamiques de type banque islamique, université islamique, ONG islamique, etc. La révolution iranienne de 1978-79 avec comme thème « Révolution islamique » et « République islamique », a fini par faire désigner les partisans de cet islam politique comme étant des islamistes. Le terme semble avoir été utilisé dans ce sens en France en 1980, dans un article de Jean-François Clément dans la revue Esprit, le titre de l'article étant « Pour une compréhension des mouvements islamistes ». Je cite « L'islamisme a suscité ces derniers mois de très nombreuses études, qu'il s'agisse de descriptions ou de prises de position. C'est ce qu'on a appelé l'effet Ayatollah ou l'effet Khomeini. En effet, les médias occidentaux réduisent souvent dans leurs analyses ou leurs caricatures un phénomène très général, à la fois représentation d'un petit diable noir, l'imam Khomeini, manichéisme simplificateur, qui est justement un des éléments fondamentaux de l'idéologie islamiste. Mais l'intéressé renvoie à un article de Habib Boulares, journaliste et homme politique tunisien, alors que je n'ai pas encore réussi à trouver, il faut que j'aille dans une bibliothèque spécialisée, publié le 12 mars 1979 dans le Nouvel Observateur. Et ce serait donc dans cet article du Nouvel Observateur que le mot islamiste et islamisme, au sens moderne du terme, ont été utilisés en français pour la première fois. Jean Keppel a affirmé tardivement être l'inventeur du terme, je cite, en 2023, sur CNews. C'est d'ailleurs votre serviteur qui a créé ce terme en français de mouvement islamiste, que j'ai mis en iste pour montrer que c'est un mouvement politique. Donc ce n'est pas lui l'inventeur du terme, mais il en a fait un excellent usage dans sa thèse de 1983, publiée en 1984, concernant l'assassinat de Sadat sous le titre « Le prophète et le pharaon ». Cette référence a rapidement remplacé ce qui était habituellement utilisé pour désigner ce courant, soit intégrisme en référence au catholicisme, soit fondamentalisme en référence au protestantisme. Chacun de ces deux termes peut être utilisé pour définir des aspects de l'islamisme. L'intégrisme est comme affirmation d'un rejet total de la modernité au nom d'une foi et d'une pratique considérées comme immuables. Le fondamentalisme comme interprétation exclusivement littérale des textes religieux, débouchant sur le rejet de toute contradiction et des positions plus tard assez radicales. Alors l'un et l'autre peut tout aussi bien conduire à un rejet du monde qu'à la volonté de le changer par la force, c'est-à-dire le ramener à un état idéal qui n'a jamais existé dans la réalité. Une société chrétienne idéale des intégristes n'a jamais existé dans la réalité historique. Il suffit de voir les condamnations pour hérésie, blasphème, etc. à travers l'histoire. Il semble que le terme « islamiste » ait été importé du français vers l'anglais dans la seconde moitié des années 1980. Le passage d'islamie renvoyant à un mouvement ou à une institution, à une personne, est probablement un peu antérieur en arabe aux années 1980. Pour conclure, on peut dire qu'islamisme, au sens actuel du terme, signifie islam politique, c'est-à-dire de faire l'islam la référence exclusive à un État qui, par ailleurs, disposerait de la totalité des instruments de la modernité. Ernest Gellner, grand sociologue et un grand penseur en général, spécialiste de l'islam, disait jadis que les ulamas, les religieux en islam, passaient leur temps à définir le devoir-être. Mais ils savaient parfaitement qu'ils n'avaient pas les moyens d'imposer le devoir-être à la société. Ne serait-ce la femme bêtise, les pouvoirs, l'État, etc. Le problème d'aujourd'hui, c'est que ce discours du devoir-être est pris littéralement comme un programme politique. Et donc, on l'impose. Et ça, c'est une nouveauté totale dans l'islam, puisque jamais on a pensé avant que le devoir-être était une réalité. C'était un exercice de style pour les religieux. Les religieux, ensuite, ça peut passer par les fatwas, donc par les avis juridiques, pour gérer la quotidienneté. Et ça, ils s'abattent parfaitement dans les problèmes du quotidien, mais ils faisaient la distinction entre le devoir-être et la vie quotidienne. Et c'est cette distinction qui a tendu à disparaître dans les mouvements islamistes. C'est en ce sens qu'a été créé un néologisme en arabe pour traduire cette référence occidentale, islamawiya, mais son usage s'est borné aux sciences politiques arabes, qui, vous savez, sont une espèce de magma absolument épouvantable parce qu'ils passent leur temps à traduire les concepts occidentaux. Et alors, les Marocains traduisent Bourdieu de façon différente des Égyptiens qui les traduisent de façon différente des Irakiens, etc. Donc on a toujours un mal de crâne pour comprendre de quoi il s'agit. Sauf quand il est marqué en français, le terme en français. Voilà. Donc, dans la littérature standard arabe, on se contente d'islam politique et d'islam essayassier, ce qui est beaucoup plus simple.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.